Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans une heure en série de retour en direct après une semaine de suspension en podcast. Une heure en série, je vous rappelle la règle du jeu, hein, 55 minutes chrono pour débattre de l'actualité des séries et grâce à la vie affûtée, parfois mordant mais jamais de... mauvaise foi, vous n'écoutez absolument jamais l'émission. Ça n'est pas du tout le cas de nos chroniqueuses et de notre chroniqueur. Essayez de vous recommander le meilleur de la série télé. Je me sens seul parfois. Au cours de ce 22e épisode de la 3e saison d'une heure en série, nous parlerons ce soir VHS et Spectre du passé dans Archive 81 sur Netflix, Quiproquo et Triangle amoureux dans L'amour presque parfait sur France 2, Plongée asphyxiante et Polar sous-marin avec Vigile sur Arte.
Une heure en série. Xavier Le Herpeur.
Avec nous ce soir, Marjolaine Boutet de Phosphore qui est venue à vélo.
Eh oui, bonsoir.
A-t-elle tenu à nous préciser. Noémie Luciani de 7e Obsession qui s'est échappée de Toulouse. Mais là, vous aviez le droit, vous aviez une dérogation.
On ne
vous
soupçonne
de rien.
De justesse.
Et qui travaille pour la 7e Obsession. Et le Toulousain, mais visiblement pas encore échappé puisqu'il n'est pas avec nous ce soir. Il est chez lui pour des raisons de positivité au Covid. Mais ça n'est pas une raison de s'en passer, bien évidemment. J'ai parlé de Benoît Lagan.
Bonsoir Benoît. Oh, j'aimerais bien être dans le studio avec vous, mais je suis bien installé sur mon canapé, comme un bon téléspectateur.
Vous gardez votre Covid pour vous, pourquoi vous voulez nous le refiler? Non mais j'adore tout ça. On vous entend néanmoins dans le 5-7 de Mathilde Munot sur notre antenne, bien évidemment. Et on peut vous voir sur France 2, dans Télé Matin. Vous ne ferez pas d'effet miroir ce soir, puisque vous n'êtes pas avec nous, mais bien sûr, vous allez participer à tous les débats. Un des débats qui va être amorcé d'ailleurs par un des courriers reçus cette semaine et signé d'Amélie. Et il est très drôle. Comprenez, évidemment, avec mon mauvais esprit, il est très méchant. Et j'adore ça. Bonjour à toute votre équipe et merci pour vos émissions. La liste des séries que vous m'avez donné envie de regarder s'allonge chaque semaine et au-delà de ce que mon espérance de vie me permettra de voir. On a un peu le même souci, chère Amélie. Je devrais donc m'en vouloir de parfois prendre du temps avec des productions de moindre qualité comme... L'amour presque parfait, diffusé sur France 2 depuis le 19 janvier. Une série présentée non seulement par la chaîne elle-même, mais aussi, semble-t-il, par une partie de la presse télé et féminine, comme légère et actuelle. Elle n'est ni l'un ni l'autre. On ne peut pas tout à fait se comparer à Bridget Jones ou Sex and the City, quoi qu'on en pense d'ailleurs de ces deux univers. Et se dire actuelle en 2022, on ne peut plus avoir un héros qui se demande comment faire pour faire semblant d'être gay. On n'est plus dans les années 90. Et on ne devrait plus nous présenter d'héroïne qu'on se doit de trouver sympathique, alors qu'elle est très souvent sotte et que toute l'intrigue repose sur ses mensonges, ses manipulations, ses affligeantes maladresses qui rendent la crédibilité de son entourage à ses mensonges assez douteuse, son attitude de pick me girl, son égoïsme et son déni de réalité. J'attends avec impatience de savoir ce que vous en avez pensé. Eh bien, réponse dans un petit quart d'heure, chère Amélie. Mais j'ai très peur. Un autre courrier qui vient de Mancoon, qui est un amateur de métal, musique métal de 52 ans. C'est comme ça qu'il se définit. Je vous décris pour vous dire combien j'en ai assez d'écouter votre émission en podcast le dimanche, en début d'après-midi, pour que le repassage ne me paraisse pas trop long. Et oui, il arrive que des maris fassent le repassage pendant que leur épouse en profite pour faire la sieste. Car suite à vos propositions de regarder L'amour flou, la 3e saison d'Afterlife, The Wonder Years, complètement à cran, et surtout ce petit bijou de Blaise Smith qui me tire de fou rire en réveiller mon épouse, pour ne pas me retrouver sur la paille, j'ai dû m'abonner pour 2 ans à Canal Plus Série, regroupant plusieurs plateformes, moi qui n'étais pas porté sur les séries, mais plutôt sur les animés, les films, les séries d'animation japonaises. Vous êtes des fous furieux, il va falloir vous calmer, je ne pourrai pas suivre très longtemps à ce rythme, cela doit cesser. Et là j'ai 3 points d'exclamation, je crois qu'il est très 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 sérieux. À part ce désagrément passager, ne changez rien, il va falloir juste que j'amortisse l'abonnement. Voilà.
Merci beaucoup
Mancoon qui nous donne rendez-vous demain, donc dimanche. Un petit conseil, juste avant de passer au débat, avec une revue qui s'appelle l'ADN. L'ADN, c'est une revue trimestrielle dans laquelle sont traités des sujets variés, mais toujours consacrés au marketing, à la communication, à la stratégie et à la créativité. C'est ainsi qu'elle se définit. Le nouveau numéro de l'ADN, qui est vraiment une très très belle revue, est consacré à Séoul, le nouvel Hollywood, et elle réfléchit justement à la manière dont la Corée du Sud est devenue effectivement une mine, tant pour le cinéma que pour la pop, la K-pop, la célèbre K-pop. Si vous avez des ados de moins de 20 ans, je pense que vous connaissez mais c'est tout ce dont je parle, et surtout pour les séries télé qui effectivement pullulent. Donc voilà, excellente revue et très belle analyse, à la fois sur la manière de faire, sur le marketing, de positionner les séries et les films, c'est absolument formidable. Et donc la revue s'appelle L'ADN. Vous avez levé la main, Marjolaine ?
Non, parce que ça m'intéresse. Je voulais vous la piquer, Xavier.
Ah, c'est tout ?
Oui.
Eh ben, ça commence bien. Avec des interventions de ce niveau-là, on n'est pas rendu. Alors, je peux y aller ? C'est bon ?
Oui.
Dan Turner, trentenaire solitaire, vit de nos jours à New York, mais ce geek introverti a une passion inextinguible pour les vieilles cassettes audio et les VHS des années 80 qu'il collectionne et restaure dans son atelier. Approché par un puissant industriel ayant fait fortune dans le test ADN, il est chargé contre une somme conséquente de restaurer des cassettes vidéo partiellement détruites lors d'un incendie survenu en 1994. Pour cela, Dan doit rejoindre une maison carcérale et lugubre perdue dans les bois. Moi perso, j'y vais pas, hein, mais bon, il fait ce qu'il veut. Et il a pour mission de ne pas en sortir tant que le travail n'est pas accompli. Notre héros découvre très vite qu'il est sous haute surveillance, mais aussi qu'il entretient avec une jeune femme victime de l'incendie et ayant filmé ses cassettes, une relation qui déjoue les règles du temps. Archive 81, une série en 8 épisodes que vous pouvez voir sur Netflix et qui, si l'on en croit la plateforme, rencontre un beau succès, un conte macabre tendu entre deux époques qui parle, un peu comme dans l'émission, secret de famille, deuil, secte démoniaque et sacrifice humain.
Un dimanche, normal.
Ce que l'on veut, c'est un artiste. Une personne capable de restaurer une série de cassettes vidéo qui ont souffert, dont on vient de faire l'acquisition.
D'accord. Qui ont souffert de quoi ?
Du feu. Il y a juste un hic. Ces bandes sont fragiles et ne peuvent être déplacées. Vous devrez travailler dans notre complexe de recherche situé dans les Catskills. Travailler sur ces archives, découvrir ce qui s'est réellement passé au Visser, permettrait à beaucoup de gens qui ont perdu quelqu'un de faire le deuil.
Ici Mélodie Pendras, nous sommes le 11 mars 1994, il est 10h32.
C'est le premier jour de mon projet d'histoire orale qui porte sur l'immeuble Visser.
Je vais toquer à quelques portes maintenant. Souhaitez-moi bonne chance.
Vous avez entendu ça ?
Entendu quoi ?
Il y a quelque chose dans ce monde qui nous appelle.
Il y a quelqu'un ?
Archive 80, une série créée par Rebecca Sonnenschein, scénarisée par Harris Boardman, d'après un podcast éponyme, et produite par James Wan, l'enfant roi du cinéma d'horreur, du cinéma de genre, puisqu'on lui doit entre autres la saga Saw, Conjuring, ainsi que Aquaman. Pas des chefs-d'œuvre, hein, soit dit en passant. Dans les rôles principaux de cette série horrifique, Mamoudou Hati, Dina Shihabi, pardon, et Martine Donovan, que l'on a vu récemment dans le Tenet de Christopher Dolan. Bah, la presse n'est pas mauvaise pour Télérama. Archive 81 est un drame fantastique, un peu laborieux, mais intrigant. Pour Le Monde, l'intrigue est boitillante, mais on retiendra de ce voyage ses inventions poétiques et l'émergence d'un couple inattendu et attachant. Noémie, partagez-vous cet enthousiasme mesuré, on peut dire.
J'aurais aimé le partager. La série, sur le papier, avait tout pour me plaire. Du found footage, donc des enregistrements retrouvés, c'est la base de l'intrigue. Des portails entre les époques, la possibilité des fantômes, société occulte, des vieilles bâtisses, un peu de poétique des ruines, un peu de désespoir lovecraftien. À ces grands espoirs ont répondu une grande déception.
On sentait venir quand même. Oui. Hein.
Alors, vous l'avez dit, c'est adapté d'un podcast de 2016, très assez plaisant d'ailleurs, avec vraiment un parfum très vintage, un joli travail sur les bruits. Et là, on essaye de le mettre en image, et c'est là que je cesse de comprendre. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'intérêt pour ce passage d'une aventure sonore à une aventure visuelle. Alors, notamment via cette fausse promesse qu'est le found footage, donc l'enregistrement retrouvé. C'est normal qu'il y ait deux régimes d'image à l'écran, c'est-à-dire on voit à la fois les enregistrements, ce qu'a filmé Mélodie, le personnage principal, et on voit également eh bien, les images qui correspondent au reste de la série, où on voit Dan en train de restaurer tout ça. Donc c'est normal qu'il y ait deux régimes. Seulement, ce que je ne comprends pas, c'est cette manie qu'a la série de nous gaver en permanence visuellement en complétant les images retrouvées de Mélodie. Tout l'intérêt du found footage, normalement, tout son sel, c'est de jouer sur la frustration, ce que la personne qui filme n'arrive pas à filmer, le flou, le hors-champ. Et là, ça n'a aucun intérêt pour les personnes qui filment cette aventure, ce qui, ma foi, m'échappe totalement. Alors je me suis dit, bon, le luxe que ça donne à vouloir tout filmer, c'est qu'on pourrait vraiment filmer un décor. Ce fameux immeuble Visser dont on nous parle tout le temps, qui est très mystérieux, qui serait un personnage à part entière. J'attendais un vertige à la Jacques Torrance dans les couloirs de l'Overlook. Mais ici, les couloirs ne sont que des couloirs. Et on ne comprend pas en quoi ce Visser est un endroit spécial, en tout cas à l'image. Ça ne suscite aucun intérêt. ce qui fait que la curiosité est restreinte au récit. On n'a pas conscience de la spécificité du médium, sinon peut-être quand on filme ce couple, que je trouve en effet pas inintéressant, en particulier Dina Chiabi, qui a une très belle voix, une voix faite pour un podcast, très mystérieuse, à laquelle le doublage qu'on a entendu au début ne rend pas du tout justice.
Benoît, vous nous entendez ?
Oui, bien
depuis
sûr.
Depuis autre temps, depuis un autre espace-temps, peut-être. Qu'avez-vous pensé d'Archives 80, cher Benoît ?
Mais moi, au départ, j'étais aussi assez enthousiaste à l'idée, hein, du moins sur le papier aussi. Au final, je trouve que c'est pas si mal, mais c'est pas abouti, voilà. Et la fin de la série, je dévoile rien, mais on sent une fin qui ouvre vers une saison 2, donc j'espère que une saison 2 ira plus loin. Alors effectivement, il y a toute la problématique, je trouve, de ce jeu sur la mémoire technologique. Donc on joue avec, certes, ces traces vidéo tournées par Mélodie, mais on travaille aussi le film en pellicule, le fichier numérique, les premières séries, les premières anthologies aussi, il y a des clins d'œil à tout ça. Donc tout ça, moi je trouve que esthétiquement, même s'ils en font pas grand chose, au moins ça existe et au moins c'est là. Sauf que sur le plan audio, effectivement, Noémie, tu parlais de ce travail sur le son qui est pas trop reconstitué. Moi, je trouve que sur le son, justement, rien n'est fait alors que ça vient d'un podcast. C'est qu'il y a même un des personnages de la série qui tourne un podcast. Et souvent, l'horreur fonctionne quand même beaucoup sur les effets sonores. Et là, je trouve que ça tombe souvent à plat. Mais au fond, une fois qu'on a accepté que ce serait comme ça, on est pris un petit peu dans l'histoire. Et moi, l'autre déception, c'est qu'il y a une vraie promesse autour de l'histoire orale, de la géographie, c'est quoi cet immeuble, qu'est-ce qu'il nous raconte, pourquoi une historienne veut faire un travail d'histoire orale justement sur cet établissement. Il y a tout, quelque chose d'assez intéressant à travailler autour de ça. Et là, à nouveau, la série ne va pas assez loin dans tout ça. On a l'impression que c'est juste un gadget pour nous raconter une histoire finalement un petit peu déjà vue. L'histoire des sectes sanguinolentes, etc. Bon, des choses que les films et les séries d'horreur nous ont déjà montré. Et donc, du coup, je suis resté un petit peu sur ma faim.
Marjolaine.
Oui, moi aussi j'ai regardé ce gloobie-bolga de référence horrifique avec un ennui poli. puisque le fun footage, ça a 15 ans, hein, Blair Witch, voilà. Les histoires d'exorcisme et de snuff movie, au moins 45 ans. L'immeuble chelou, en plus à New York, on l'a déjà vu aussi à peu près 1043 fois. On a l'impression d'une énième série Netflix qui est créée pour, voire par l'algorithme, avec le vintage années 90 pour changer des années 80 de Stranger Things. En même temps, Mélodie écoute Joy Division, donc on est vraiment là, pour le coup, dans l'esprit 80 que vous aimez, Xavier. La dimension parallèle, les corridors chelous, la forteresse des années 80, la moisissure sur les murs, enfin vraiment, ça n'aide pas. Et moi, pour moi, le couple improbable de la série n'est pas entre Dan et Mélodie, mais entre Dan et son meilleur ami. Et j'ai trouvé Matthew McGorry dans le rôle du meilleur podcasteur. La seule vraie bonne surprise de cette série, et je trouve c'est un acteur formidable.
Acteur voilà. Qu'on avait vu dans la série Murder. Bon, je crois qu'on n'archivera pas Archive 81, si j'ai bien compris ce débat, disponible sur Netflix. You want me dead, now I am dead, sir. I am upset, I want you dead, ghost. I am upset, now you are dead, though. We are upset, sir. We want to live, but life is dead, sir. Life is Dead par les Cannibals. On ne le devinerait pas à les écouter, mais les Cannibals sont normands. Ce titre d'ailleurs baptise leur deuxième album, album qui renoue avec une pop psychédélique incantatoire, qui irait chercher ses racines dans les musiques tribales tout en lui insufflant une rythmique tellurique, scandée et hypnotique. Les Cannibals seront en concert le 4 février à Dijon, le 3 mars à Paris au Café de la Danse, et le 4 mars, donc le lendemain, à Annecy.
France Inter. Série.
Le conseil littéraire de cette semaine est intitulé Fran Kiesstein de Janet Witterson. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Et il est paru aux éditions Buchet-Castel, un récit dans la continuité de la série que nous venons d'évoquer où le passé hante le présent et le distord. Tout débute en 1816 près du lac de Genève où sont réunis les esprits les plus fins et les corps les plus libres. Libre, pardon, de l'Angleterre victorienne, Byron, Shelley et surtout son épouse Mary, qui, mise au défi d'inventer une histoire, crée par une nuit de tempête l'un des romans clés de la fin du 19e siècle, Frankenstein. Un livre en écho aux préoccupations de l'époque, l'industrialisation, la remise en question de la religion et du pouvoir de Dieu et les maladies multiples. L'histoire d'un médecin, je vous le rappelle, Victor Frankenstein, qui crée la vie et enfante un corps rafistolé, un Prométhée moderne, une créature sans nom, brutale et désespérée, en quête de sa conscience. 200 ans plus tard, dans une Grande-Bretagne ayant connu le Brexit et repliée donc sur elle-même, Ray Shelley est un médecin homme transgenre. Il est amoureux de Victor Stein, un chercheur passionné par l'intelligence artificielle. Ray fournit d'ailleurs des morceaux de cadavres à ce savant visionnaire travaillant entre Londres et l'Arizona. Arizona où sont accumulés des corps cryogénisés, espérant que la science des temps futurs leur rendra ce souffle de vie perdu à tout jamais. À jamais, peut-être plus pour très longtemps. Entremêlant les deux récits, faisant résonner entre ces deux-là des échos troublants, Janet Winterson réinvente le pur récit de science-fiction et à travers lui le questionnement sur notre condition humaine et notre identité genrée, thème qui structurait déjà le livre de Mary Shelley. Avec en plus une force littéraire appréciable, l'autrice osant même se débarrasser du narrateur, autre forme déique, dans la partie contemporaine qui n'est qu'une suite hypnotique de dialogues pétris de questionnements sur la mort, sur la quête de nos sens, de son pardon, à nos existences et sur nos désirs sexuels. Un livre éminemment prenant et totalement brillant, Frankenstein de Janet Witterston, paru aux éditions Buchet-Chastel. Elle a failli y croire. Julie, 36 ans, constamment dénigrée par sa mère au profit de sa sœur, avait presque renoncé au grand amour jusqu'au jour où elle trouve un message sur son portable. Son interlocuteur lui fait une grande déclaration d'amour, sauf que le téléphone n'est pas le sien. Peu importe. Pour notre héroïne, elle décide de se fier à son destin qu'elle espère enfin favorable et elle choisit de se rendre au rendez-vous proposé par Cupidon. Premier indice d'un bonheur à venir, le type chirurgien altruiste est franchement canon. Et ce n'est que le début d'une longue suite de quiproquos et de mensonges éhontés, une accumulation de petits arrangements avec la vérité au sommet desquels se trouve celui de son nouveau colocataire qui se fait passer pour gay pour tenter de trouver un logement. Waf, waf, waf. Las, c'est un hétéro pur jus qui se retrouve à cohabiter avec une jeune femme à laquelle il n'est pas insensible, évidemment. Cependant que les copines de Julie, une mère de famille délaissée et une sex addict, il y a une très belle définition des personnages, une caractérisation des personnages féminins dans cette série, dévorent des yeux ce bellâtre comme on se régale sans pouvoir y goûter d'un dessert interdit. L'amour, entre parenthèses, presque parfait, sur France 2, série en 6 épisodes diffusée depuis le 19 janvier, démarrage timide, un peu moins de 3 millions de curieux pour son lancement, et 1 million de moins tout de même en deuxième semaine.
En un seul coup, t'es célibataire, au chômage, à la rue.
Rappelez-moi pourquoi je me confie à vous déjà.
On était seuls amis.
T'as pas le choix.
Une bonne vieille coloc.
J'ai pris un gay, ça évite les tensions sexuelles.
J'ai un peu de mal à faire semblant d'être gay.
Moi, je veux pas finir ma vie seule à galocher mon chien.
Moi, c'est Max. Enchanté.
Julie.
Bonjour, docteur.
La colocation commence bien.
Ah, mais ton chien !
Elle est insupportable et puis absolument pas mon genre.
L'amour presque parfait, une série écrite par Armel et Emmanuel Patron avec Maud Baker, Nadia Rose, Tom Leb et... Je dis « et » avec trois petits points de suspension parce que je sais qu'elle va spammer en régie. François Vincent Elie, l'acteur préféré de Marie-Annick Rimbaud, notre réalisatrice. Alors ce débat tant attendu par Amélie, je vous rappelle le courrier que j'ai eu le plaisir de lire en début d'émission. Eh ben la presse, côté parisien, ils vont apprécier cette série romantique et bigrement hilarante. Ouais, j'ai pas vu la même. Télérama estime que cet amour presque parfait est loin d'être inoubliable, mais plaisant. Il n'y a que TéléZ, je suis premier surpris, mais ravi en même temps de ne pas être tout seul, qui déplore une série enchaînant les clichés sur les femmes. Marjolaine.
Oui, effectivement, c'est la fille cachée ou la petite sœur lointaine de Bridget Jones et de Clara Scheller, avec ses copines Samantha et Charlotte qui viennent tout droit de Sex and the City. Et comme Bridget Jules dans cette nouvelle série est blonde, Samantha Manon est brune et Charlotte Ava est rousse, histoire qu'on ne les confonde pas. Ça donne une idée quand même du niveau de prise en compte des téléspectateurs et de leur intelligence. La bande-annonce dit tout, notamment du premier épisode qui est particulièrement caricatural, dans un univers tellement saturé en couleurs et en clichés qu'on a du mal à l'avaler. Tout le monde parle de Emily in Paris, mais regardez L'amour presque parfait, c'est un Paris qui n'existe encore moins que celui d'Emily. Malgré tout, il y a 6 épisodes. Il y a Tom Leb et surtout François Vincent Elie, pour lesquels Marie-Anne Rimbaud et moi allons faire un combat dans l'octogone, qui apporte quand même du charme, ou en tout cas quelques plaisirs visuels. Les clichés sont pas toujours avec subtilité, un petit peu démontés. Et finalement, je dois avouer, à ma grande surprise, que j'ai passé un assez bon moment. Et l'idée de montrer l'imagination des personnages à travers des scènes de genre fantasmées est bonne, mais pas totalement convaincante parce que il aurait fallu pour ça que la série soit réaliste, ce qu'elle n'est pas du tout, et donc il n'y a pas assez de contraste en fait entre les scènes fantasmées et cette série qui se passe déjà dans un univers totalement improbable.
Je respecte complètement votre opinion, chère Marjolaine, mais quand vous me dites que les clichés sont démontés, on a au premier épisode le casting des gays pour la colocation, et là franchement j'ai l'impression que La Cage aux Folles est un grand film avant-gardiste sur la condition LGBT. Benoît, vous nous entendez toujours ?
Oui, toujours, toujours.
Allez-y, mon petit bonhomme.
Alors, pour rebondir sur ce que vient de dire Marjolaine, c'est une série qui aurait presque pu être sympa, mais qui, moi, je trouve, à force d'ouvrir toutes les portes maintes fois ouvertes par la comédie romantique depuis 30 ans, ça finit quand même assez vite par fatiguer. Pourtant, moi, je trouve qu'il y a, je vais commencer par les choses positives, de la vivacité dans le montage, des répliques a priori qui fusent, des personnages qui auraient pu être attachants. Malheureusement, en fait, le jeu des comédiens est parfois approximatif. Du coup, ça souligne des dialogues souvent surécrits. Et le problème, c'est que dans le genre de la comédie romantique, et Marjolaine l'a cité tout à l'heure, il y a eu en 2005, sur France 2, un mercredi, Clara Scheller. C'était en 2005, c'était déjà sur France 2. Et à l'époque, la série savait capter l'air du temps, tout en ayant de la fantaisie finalement, et la fantaisie nécessaire. On est aujourd'hui en 2021, et si on regarde... Allez, juste pour prendre des exemples, parce qu'on peut citer les comédies romantiques anglo-saxonnes, bien évidemment, mais juste quelques exemples français. Netflix a créé Plan Cœur il y a quelques temps. La première saison, elle n'était pas forcément réussie, mais au moins, elle avait un trio de filles qui fonctionnait, enfin, je trouve, dans Plan Cœur. Là, le trio marche pas bien, parce que je trouve qu'elles disent des dialogues qu'elles ne pensent pas. Enfin, c'est très bizarre. Et puis, plus récemment, il y a eu Christmas Flow, qui était aussi plutôt réussi sur Netflix. Alors voilà, on est en 2022, moi j'aurais aimé quand même que L'amour presque parfait soit la série presque parfaite, or c'est quand même assez raté.
On va préciser que Christmas Flow sur Netflix a été en partie scénarisé par Marianne Lévy qui participe régulièrement à cette émission. C'est effectivement autre chose. Alors, Noémie, à propos de L'amour presque parfait, ne me regardez pas avec ces petits yeux coquins comme ça qui brillent au-dessus de votre masque, et allez-y franchement.
Eh bien, moi aussi je m'interroge sur l'existence de cette série en 2022, alors l'une des hypothèses que je fait, c'est qu'on a affaire à un produit nourrissant, au sens où, dans les critiques positives que j'ai pu lire, on voit beaucoup que la vie est dure en ce moment, il y a une pandémie.
Elle est au chômage et elle habite une maison de deux étages. Moi, je veux bien être au chômage dans ces conditions-là, mais si c'est ça la difficulté de l'existence et la dimension sociale de la série, je me pends tout de suite.
Mais justement, je pense que c'est peut-être ça l'idée, le plaisir qu'on prétend nous faire éprouver avec cette série, qui est que du coup, on va avoir ce plaisir de légèreté, le côté très en couleur, les gloussements de la bande de filles et la légèreté de l'intrigue. Et il y a ce plaisir à mettre son cerveau de côté, à naviguer dans cette légèreté. Alors, moi, au-delà du fait qu'il y a du déjà-vu, je trouve aussi que, même sur le plan technique, c'est une série qui est extrêmement insatisfaisante. Alors, moi, j'ai été profondément choquée, parce que j'aime le genre, par une scène de comédie musicale qui intervient assez rapidement et qui a vraiment, je dirais, le dynamisme d'une partie de pétanque après quatre pastis et la légèreté de la quiche lorraine de ma grand-mère. Et là, du coup, pour la légèreté, effectivement, on repassera. Ce que je veux dire, c'est qu'on a le droit de se faire plaisir de façon immédiate. Il n'empêche que la comédie musicale, c'est quelque chose de technique, c'est un travail de précision, un travail d'inspiration, même quand ça vise à être appréhendé avec légèreté. Et je pense que si l'objectif de l'amour presque parfait est de venir nourrir notre besoin d'un monde pétillant qui ne correspond peut-être plus à notre vie de 2022, la série n'a peut-être pas compris qu'il y a un art de la comfort food et que des bonnes pâtes carbo, ce ne sont pas des lardons gras qui font des petits yeux dans une crème aigre. Ça n'a pas forcément non plus à être une guanchia les filements découpés et des œufs bio, mais il y a un juste milieu que la série ne trouve pas, qu'elle ne semble pas viser. Très peu pour moi, merci beaucoup.
C'était la chronique culinaire de Noémie Luciani, qui visiblement veut lorgner du côté d'une émission qui passe le dimanche sur France Inter, on va vous présenter. Moi, je suis quand même très étonné, parce qu'on a un petit peu de temps. Si j'ai programmé cette série, c'est pas uniquement pour lui faire la peau, c'est que je suis quand même, on est en 2022, j'ai l'impression que c'est une série hibernatus, c'est-à-dire qu'elle a été congelée il y a 40 ans, et retrouvée, je sais pas, dans un dossier, on a vidé un bureau, et je trouve ça quand même un peu gênant, outre les clichés sur les gays et sur les femmes, ça je crois qu'on a compris un tout petit peu, c'est cette absence effectivement de contextualisation avec le monde d'aujourd'hui, quoi. Enfin, je veux dire, on a l'impression qu'elle vit dans une bulle, et effectivement même Émilie de Paris, qui est quand même très agaçante, hein, disons les choses telles qu'elles sont, est plus en rapport avec l'actualité, avec le monde d'aujourd'hui,
oui, que moi cette série. Oui, puis au moins complètement,
et s'assume, et voilà,
c'est
en plus.
Très bien fait. Là, effectivement, la scène musicale, comédie musicale...
Mais même la publicité pour les assurances, pour les que je acteurs, ne peux pas citer, mais qui parodie... Palace est mieux faite
que ça,
quand même.
Oui. Et on voit donc François Saint-Elly qui sourit, qui essaye de faire passer le truc, mais ça, on voit tellement que c'est pas répété, que c'est pas.
Je me dois de révéler les coulisses de l'émission. Ça n'est pas le sourire de François Saint-Elly que vous évoquiez tout à l'heure avant l'émission, mais une autre partie découverte de son anatomie. Non, mais assumez, Marjolaine.
Écoutez, François Saint-Elly est absolument parfait, des orteils à la racine des cheveux, en passant par son fessier formidable que l'on voit dans la série.
Marie-Annick Rimbaud vous attend à la sortie. Je pense qu'il va y avoir un petit girl fight juste après l'émission. Oui. Bon, c'était donc l'amour presque parfait sur France 2. Il vous reste une semaine pour découvrir ou pas cette série.
Si tu m'aimes demain, on sera deux stars, 70-80, qui se cachent leurs gars, qui rêvent plus loin. Si tu m'aimes demain, on brodera des fleurs sur nos jeans troués, on dessinera aux fans des cœurs. Si tu m'aimes demain, on regardera Paris, la semaine en émeute, le week-end on fuira la ville. Si tu m'aimes demain, ils passeront nos chansons, fausse poésie, on sera peut-être des cons. Se voir la vie à deux, demain j'irai pas mieux. Devoir se dire adieu, tourner pas heureux, s'en trouver comme de vieux. Faut que si tu m'aimes, si tu m'aimes demain, je ferai un tas de photos dans les chambres d'hôtel. Toi, tu me peindras sur le dos. Si tu m'aimes demain, dans les soirées chics, les cheveux en pagaille, on se fera la malle, on donnera des disques. Si tu m'aimes demain, je t'achèterai une plage, le temps d'un été, loin des journaux qui crieront scandale. Si tu m'aimes demain, dans un photomaton, on laissera de gros bisous, incognito, on sera peut-être des cons. Se voir la vie à deux,
Si tu m'aimes demain par Iliona, une jeune chanteuse de 21 ans qui nous vient de Belgique. Un rien vintage, soul jazzy dans son clip et ses arrangements furieusement de notre époque. Avec ses textes tout en romantisme ironique, ce titre est extrait de son deuxième EP intitulé Tête brûlée et sorti l'an dernier. On pourra découvrir cette jeune chanteuse sur scène le 17 juillet au Francofolies de La Rochelle.
France Inter. Une heure en série.
Et vous êtes bien en direct sur France Inter dans Une heure en série avec ce soir la talentueuse culinaire Noémie Luciani qui maintenant nous fait des petits conseils gastronomiques pendant ses chroniques. Marjolaine Boutet qui n'a Dieu que pour les fesses de François-Vincent Elly. Et Benoît Lagan qui est toujours Covid positif mais ça ne s'entend pas parce qu'il est en pleine forme.
En pleine forme.
Un chalutier est tiré dans les fonds marins sans que l'équipage puisse faire quoi que ce soit pour éviter la tragédie. À bord du Vigile, un sous-marin posté à proximité, un jeune militaire alerte ses supérieurs qui refusent de sauver les pêcheurs. Le lanceur d'alerte est consigné dans ses quartiers avant d'être retrouvé mort quelques heures plus tard. Une enquêtrice au très très lourd passé traumatique, ça c'est pas ce qu'elle a mis dans la série, est envoyée à bord du bâtiment pour enquêter sur ce décès. Ses premières constatations sont formelles, il s'agit d'un meurtre. Une affirmation qui achève de la mettre à l'écart du corps très soudé des marins qui font tout pour l'empêcher de poursuivre ses investigations. Vigile, une série écossaise en 6 épisodes disponible sur Arte TV jusqu'au 18 février. Un polar en huis clos dont l'intrigue ressemble fortement à la course anxiogène du sous-marin où se déroule l'action car la vérité y est particulièrement profonde et que pour la faire éclater, il va falloir plonger au tréfonds des abysses de la Grande Muette.
Mrs. DCA Amy Silver. Earlier today, crewmen died on board Vigil.
How are you with confined spaces?
I'm gonna need someone who can radio me leads. I've got a good shorthand with Kirsten. I think this was a murder.
That's absurd. If you're asking me who's capable, anybody.
This is a coordinated attack, sir. Everyone knows it's a cover-up.
You're going to let them die? This is a staggering act of hostility.
But we're not at war.
That is an illusion. We have always been at war.
Vigile, une série signée Tom Hedge, qui était scénariste sur la deuxième saison de The Crown et qui est également l'auteur du biopic Judy, sur Judy Garland. C'est produit par les producteurs de Bodyguard et avec dans les rôles principaux quelques visages de plus en plus connus des amateurs de séries britanniques et aimés, bien évidemment, dont Suran Jones, qui joue le rôle principal et que l'on a vu voir dans Gentleman Jack, Sean Evans, dans Les Enquêtes de Morse, qui ont recommencé depuis un dimanche dernier. J'adore Les Enquêtes de Morse, oui, je sais. Ok, Peterson Joseph, que l'on avait vu dans Survivor, Martin Copstone, qui est un des acteurs principaux de Line of Duty, grande série britannique, et Connor Swindles, que l'on adore dans Sex Education, bien sûr. C'est une série dont France Inter est partenaire. La presse, alors là, est beaucoup plus affirmée dans son dithyrambisme. Une magistrale leçon de suspense pour le Figaro. Le Parisien salue ce mélange d'intrigues policières et de drames intimes. Petite réserve chez Télérama qui estime que la recette mise en œuvre n'est pas totalement neuve, mais n'en reste pas moins diablement efficace. Benoît Lagan, qu'avez-vous pensé du Vigile? Avez-vous plongé à la suite de ce sous-marin?
Complètement, c'est le terme efficace de ce thriller bien mené. Chaque ramification, en fait, est exploitée chaque fois avec rythme, intensité, finesse, plus ou moins, parce que vous évoquiez effectivement le trauma de la détective Amy Silva qui débarque dans le sous-marin Vigile. Effectivement, elle est claustrophobe. Pour quelle raison est-elle claustrophobe? C'est expliqué dans la série. Mais je trouve qu'au final, ils auraient pu en faire beaucoup plus. Et ça va.
Ils arrivent en font déjà beaucoup quand même.
Oui, mais je trouve qu'au final, par rapport, si on regarde par rapport aux autres thématiques abordées dans la série, au final, ça passe. Le huis clos, par ailleurs, est toujours contrebalancé aussi par l'enquête sur Terre, notamment autour de mouvements de militants antinucléaires dans une sorte de ZAD. Moi, ce que j'ai aimé en particulier dans cette série, c'est tout ce que la série pose autour de cette fameuse chaîne de commandement dans l'armée. Voilà qui fait que confronté aux règles de l'enquête et aux règles de la police et de la recherche de la vérité, forcément, ça va se frictionner. Moi, je trouve qu'au fond, s'il y avait un petit bémol à donner à la série, parce que je trouve qu'il y en a un ou deux, c'est que la série aurait pu développer sur deux ou quatre épisodes complémentaires un peu mieux la dimension géopolitique, la réflexion autour du risque nucléaire, qui sont présents, mais pas assez travaillés. Je trouve qu'au fond, les politiques, par exemple, et les militants qu'on voit sur Terre sont souvent un peu classiques, un peu binaires, et que là, on aurait aimé qu'il y ait un peu plus de psychologie par rapport à ces militants ou politiques-là. Voilà, c'est ma seule réserve, parce que sinon, je suis allé à fond sous les mers, à bord du Vigile, pendant ces épisodes intenses.
Il faut dire que c'est quand même l'ouverture, en termes de série, en termes de séquence, de l'année, pour ne pas dire de la décennie, c'est-à-dire le naufrage du chalutier. On est obligé de le raconter, parce que c'est vraiment, ça tient dans les 10 premières minutes. Et époustouflant en termes de mise en scène. Et il faut reconnaître que la mise en scène, en revanche, dans le sous-marin, est extrêmement bien calibrée en termes d'anxiogène, en termes effectivement de huis clos. Il y a quelque chose de très très pesant. Bon, c'est très classique, on a déjà vu 500 fois dans tous les films catastrophes où il y a un sous-marin, mais ça fonctionne plutôt bien. Vous opiniez du chef pendant que Benoît s'exprimait, Marjolaine, donc je vous cède le micro.
Oui, tout à fait. Et je rejoins Benoît effectivement, ça, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce thriller, et je suis tout à fait d'accord avec Benoît, c'est la guerre entre les différentes institutions, la police, l'armée, les services de renseignement. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que cette série, en fait, traduit ce qu'on voit dans beaucoup de séries britanniques, cette volonté du Royaume-Uni, aussi surannée que ce sous-marin nucléaire finalement, d'apparaître encore comme une grande puissance au milieu des États-Unis, de la Russie, de la Chine. Et j'ai trouvé assez révélateur que la cinquième grande puissance nucléaire, la France, Cocorico, qui fait face aux mêmes problématiques, ne soit jamais mentionnée. Et évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de penser, en regardant cette série, au Chant du Loup, le premier film d'Antonin Baudry sorti en 2019, qui lui était beaucoup plus critique vis-à-vis de l'institution militaire et vis-à-vis aussi de la puissance nucléaire et de ses dangers. Et là, on sent quand même, probablement pour avoir le concours de l'armée britannique ou par patriotisme, qu'il y a un côté quand même plutôt un discours plutôt positif sur l'armée et notamment sa fonction d'ascenseur social qui est tout à fait montrée. Mais on aurait pu effectivement, on peut regretter que les militants antinucléaires et les hommes politiques aussi antinucléaires soient assez dénigrés par la série. Il n'y a pas grand chose pour les sauver. Voilà. Et puis moi, j'ai été assez quand même touchée par cette histoire d'amour entre une belle-mère et sa fille finalement adoptive dont elle a été séparée par un drame effectivement assez gros, mais j'ai trouvé ça vraiment vraiment joli. Et dans les acteurs, il me semble que vous avez oublié Rose Leslie de Game of Thrones.
Ah mais j'en ai oublié plein, bien évidemment, qui, de toute façon, parce qu'il y a à peu près une vedette derrière.
Voilà, avec son accent écossais qui est vraiment une des lumières de cette série.
Très bien.
Que j'ai beaucoup aimé.
Merci beaucoup. Noémie Luciani, avez-vous plongé, vous aussi, dans les tréfonds abyssaux de cette série ?
Pas jusque dans les tréfonds. Ça m'a laissé un peu la même impression que Bodyguard, que vous avez mentionné, c'est-à-dire c'est très propre, c'est efficace, ça se regarde sans déplaisir, ma foi. En revanche, contrairement à Bodyguard, là, il y a vraiment quelque chose qui m'a gênée. C'est ce personnage principal d'Amy Silva, qui est joué par Saoirse Jones, qui pour moi est un personnage qu'on a vraiment surécrit en lui créant une sorte d'enchevêtrement de traumas, alors qu'ils sont pensés parfois de façon très utilitaire. Par exemple, on estime avoir besoin d'un trauma pour nous expliquer pourquoi elle risque d'avoir des sentiment claustrophobe un peu handicapant à l'intérieur d'un sous-marin. Je ne suis pas sûre qu'on ait besoin d'aller chercher ça pour susciter, pour faire comprendre qu'il est difficile pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'un sous-marin de se sentir à l'aise dans un contexte qui est souvent quand même très tendu. Donc c'est évidemment pas le seul trauma, alors j'en dis pas plus parce que je veux pas dévoiler l'intrigue, mais je trouve qu'on force vraiment dans le pathos du personnage. Alors c'est peut-être une façon de légitimer la durée, parce que c'est vrai que sur une intrigue de sous-marin, c'est difficile de ne pas lasser le spectateur en l'étirant sur une série. Ça se fait très bien dans À la poursuite d'Octobre Rouge, mais là quand même sur plusieurs épisodes c'est pas simple. Donc je pense qu'on essaye d'utiliser ce personnage en fil rouge, gardien de cette tension, gardienne de la flamme en quelque sorte. Et pour moi, c'est vraiment un personnage dans lequel je ne crois pas. En plus, c'est quelque chose qu'on retrouve, qu'on a tendance à retrouver chez cette actrice. Par exemple, j'avais eu le même problème avec Dr. Foster, dans lequel elle joue, où pour moi, le personnage est vraiment outré. Je ne parle pas de son interprétation, je parle de l'écriture. Mais je me demande si on n'est pas en train de développer autour d'elle une sorte de réflexe qui est que c'est une actrice dramatique. Et donc, on est tenté de gonfler à chaque fois son personnage en se disant qu'on va gonfler la série. Et pour moi, dans ce cas-là, dans le cas de Vigil, ça ne marche pas. Ça marche d'autant moins que par ailleurs, il y a beaucoup d'incohérences dans l'écriture du personnage. On nous la présente comme une enquêtrice de choc. Elle est capable de faire preuve de naïveté absolument stupéfiante. Par exemple, de se laisser accompagner pendant assez longtemps par quelqu'un qui est vraiment tellement servile que même nous, qui ne sommes pas des enquêteurs de choc, comprenons très vite que sans être peut-être le grand coupable qu'on cherche, il a vraiment des choses à cacher. Donc voilà, je dirais que pour moi, je n'ai pas passé un moment désagréable. Je regrette cependant qu'on ait tout misé sur ce personnage-là et pas toujours bien, sans par ailleurs s'intéresser vraiment aux autres personnages, aux autres habitants de cette maison sous l'eau qu'est le sous-marin. Et ce qui fait que du coup, on néglige la poudrière humaine. Et c'est ça qui, me semble-t-il, aurait pu donner une véritable tension.
Ce qui est assez vrai, quand vous évoquiez la surécriture dont effectivement victime, entre guillemets, le personnage, on lui prête également une histoire d'amour avec une jeune femme restée à la surface, qui enquête elle aussi de son côté, et qui est malheureusement pas très bien exploité. On l'a compris, ça lui donne un port d'attache, ça lui donne envie de revenir effectivement à la surface et de recommencer une nouvelle vie, puisque trauma oblige, mais tout ça, effectivement, sent un tout petit peu la mécanique, sent un tout petit peu, effectivement, l'artifice d'écriture qu'on a rajouté au dernier moment. Ceci, mis à part, on joue les peines à jouir, c'est quand même une série très addictive et plutôt plaisante à regarder. Donc, on vous la recommande, Vigil, jusqu'au 18 février sur Arte TV, et nous en sommes partenaires. I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me, and now I moan, and now I holler. She'll never know just what I found. That blue-eyed girl. Down by the River par PG Harvey, un titre de 1995, envoûtant et vénéneux, titre où l'on retrouve intact et indémodable la voix d'une sensualité rauque et brûlante de la chanteuse anglaise, un titre qui vous entraîne à sa suite dans les profondeurs d'une sombre séduction.
France Inter, une heure en série.
Pas de plateau télé cette semaine, mais nous allons faire un mini-débat autour des particules élémentaires, l'adaptation du roman de Michel Houellebecq que France 2 va diffuser dans quelques jours. C'est lundi très exactement, 31 janvier, on entend la musique du Rennois Yuxek, qui avait également composé la bande originale de En Thérapie. Je vais vous rappeler en quelques mots le résumé du roman de Michel Houellebecq et donc de la série. Deux demi-frères séparés à leur naissance par une mère que l'on dira pudiquement inapte à la fonction, grandissent sans jamais vraiment se connaître. Arrivé à l'âge adulte, tout achève de les séparer, à l'exception d'une forte addiction au Prozac. L'un est devenu un brillant chercheur rêvant d'immortalité, l'autre un obsédé sexuel aux fantasmes inquiétants.
Bruno, tu viens, on va téléphoner à la grand-mère de Michel.
Ça ne peut pas attendre.
Non, sinon on fera jamais.
Arrête. Écoutez, Janine, je ne peux pas vous empêcher de le voir, mais je trouve que c'est une très mauvaise idée.
Moi, je trouve pas.
10 ans, sans donner signe de vie, qu'est-ce qui vous prend tout à coup?
Eh ben, ma mère vient de mourir. Voilà.
Ouais, ben, mes condoléances, je vois pas ce que ça change.
Eh ben, ça change tout pour moi, Marie, tout.
Michel est un garçon fragile.
Mais je sais, je sais.
Alors réfléchissez bien avant de débarquer. Et ça peut pas attendre.
Non! Pauvre vache.
Quelle salope.
Une adaptation signée Antoine Garceau. La série réunit Guillaume Gouix, Jean-Charles Cliché, et on vient de les entendre et on les salue parce que c'est vraiment deux comédiennes formidables, Pascal Arbillot et la sublime, la géniale Liliane Revers. Benoît, vous êtes toujours avec nous?
Oui, complètement.
Alors, les particules élémentaires, j'ai oublié de rappeler que c'était en deux épisodes. Voilà pour la raison pour laquelle je n'avais pas programmé cette série en débat et que j'en fais donc un plateau télé. C'est pas vraiment un unitaire, c'est pas vraiment une série, c'est donc une histoire en deux épisodes. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'adaptation du roman de Michel Houellebecq?
J'ai beaucoup aimé. On parlait tout à l'heure justement d'une série diffusée en première partie de soirée sur France 2 qui a 20 ans de retard. Voilà, je trouve une fiction étonnante pour lundi soir, première partie de soirée sur France 2. Je trouve que c'est assez culotté de proposer cette adaptation parce qu'il y a plein de choses qu'on voit dans ces deux épisodes qu'on ne voit pas souvent ou trop peu dans les fictions disponibles sur TF1, France 2, France 3 ou M6 par exemple. Alors j'ai trouvé ça plutôt réussi parce que on y trouve à la fois l'univers mélancolique et glauque de Houellebecq qui est à la fois là, mais ça se combine bien dans une fiction télé. Alors le projet au départ c'était quand même faire plus d'épisodes, au final ils ont décidé d'en faire deux. Peut-être que c'est dommage parce que je pense qu'il y avait un univers à développer sur plus d'épisodes. Malgré tout, je trouve que l'écriture de Gilles Torrent évite de faire tomber donc ses deux frères, Bruno et Michel, dans les clichés, que la mise en scène d'Antoine Garceau, qui a notamment réalisé des épisodes de 10%, je trouve sa mise en scène est à la fois douce et tendre et nous fait aimer ces personnages qui sont complètement perdus. Et tous les autres, alors qu'il n'y a que deux épisodes, on aurait pu craindre que justement les autres personnages autour soient gravites et soient un petit peu faibles. Or, Annabelle, la petite ami, Louis, le chercheur, les parents existent véritablement. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était un beau
pardon de vous interrompre, Benoît, mais je voudrais que tout le monde s'exprime.
Oui, excusez-moi.
Moi, j'avoue que lorsque vous nous avez proposé ce plateau, cher Xavier, j'étais désireuse d'accorder encore toutes ces chances à 2022 et donc peu enthousiaste à l'idée de renouer si tôt avec le monde merveilleux de Michel Houellebecq et les personnalités pétillantes et détendues dont il le peuple.
Ah, c'est vrai qu'on rigole bien avec voilà. Michel. Hein, ça.
Et ma foi, ça a été une excellente surprise. Certes, il y a de la tristesse, il y a de la gravité, mais il y a également une grande douceur. Aucun manque d'âme, ce qu'on peut soupçonner au tout début chez ces personnages, plutôt des rendez-vous manqués. Alors, c'est lié beaucoup à l'interprétation des acteurs. Cette espèce de rage sexuelle d'un crève-la-faim amoureux de Guillaume Gouix et l'hébétude philosophe de Jean-Charles Cliché. C'est lié aussi à ce qu'ils sont filmés avec une vraie tendresse et que même si on trouve l'amour qu'à l'instant de le perdre, on le trouve encore, on se l'autorise, on le rêve. C'est C'est comme si la caméra croyait en eux lorsque même n'y croit plus, comme la mère digne de ce nom qu'ils n'ont pas eu, ou ces grands-mères charmantes qu'on aperçoit au début. Et c'est une expérience étonnante qui, pour moi, justifie pleinement l'adaptation à l'écran et qui m'a laissé sur un sentiment doux amer d'une grande délicatesse.
Merci beaucoup, Marjolaine.
Eh ben, moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. Je conçois la mise en scène, les acteurs sont effectivement formidables, mais j'ai trouvé finalement l'adaptation donc de ce roman choc de l'année 1998 assez scolaire, avec une voix off quand même assez plombante. J'ai trouvé effectivement que Michel Houellebecq est tellement là que tous les acteurs finissent par lui ressembler.
C'est volontaire, il y a un plan de Jean-Charles Clichy quand même qui effectivement nous montre la ressemblance entre son personnage Michel et celui de l'auteur.
Oui, mais il y a lui qui est un acteur formidable, mais Guillaume Gouix lui ressemble. Les petits-enfants et notamment celui qui joue le jeune Michel, on dirait vraiment le vrai Michel jeune, y compris le personnage du psy qu'on aperçoit, qui a aussi des airs de Michel Houellebecq, enfin vraiment y compris dans la façon de parler, parce que l'écrivain a quand même un phrasé très particulier. Voilà, l'auteur est toujours là. Donc j'ai eu le sentiment de se retrouver dans ces adaptations littéraires un peu pompeuses de France Télévisions qu'elle avait fait avec Maupassant, avec Balzac, etc. Voilà, j'ai pas été touchée. Et moi, ce discours du malaise de l'homme blanc, ces portraits d'hommes et encore plus de petits garçons au sexe triste de femmes qui sont animées uniquement par leur désir et qui sont punies pour cela, ça continue de me mettre mal à l'aise. Et donc, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de voir en prime time.
Les avis sont partagés, voilà. Mais on vous invite effectivement à faire preuve de curiosité et de découvrir donc dès lundi soir l'adaptation du roman de Michel Houellebecq, Les particules élémentaires, ne serait-ce que pour le plaisir des comédiennes et des comédiens. La musique résonne, cela signifie qu'une heure en série, c'est fini. Mille merci à vous, Noémie, Marjolaine et Benoît, depuis chez lui, d'y avoir participé.
Merci.
Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir écouté. Nous vous avons recommandé cette semaine, ou pas d'ailleurs, Archive 81 sur Netflix, L'amour presque parfait sur France 2 et Vigile sur Arte. La semaine prochaine, nous évoquerons La femme qui habitait en face de la fille à la fenêtre sur Netflix, 1m20 sur Arte TV, qui est un peu mon chouchou, et Sacha également sur Arte. Demain à 20h, n'oubliez pas de retrouver Jérôme Garcin pour Un masque et la plume, cette semaine consacrée à la littérature. Une heure en série, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Il y a un site internet où vous pouvez nous envoyer vos courriers. On a toujours le plaisir à les lire, surtout quand ils sont aussi bien écrits que ceux de cette semaine. Le compte Instagram où vous pouvez également avoir le détail de la programmation. L'émission a été réalisée par la fan numéro 1 de Vincent Elie, Marie-Annick Rimbaud, qui se pâme. Elle a une photo de lui sur son bureau. Programmation musicale assurée par Valentine Chédebois, préparée avec Amel Caldi et ce soir à la technique. Et on le remercie d'autant plus parce que ça n'était pas évident avec Benoît à distance, Clément Berman.